France Inter, franceinter.com.
Le premier est réalisateur de documentaires, le second, résistant, rescapé de Dachau. 40 ans et une guerre les séparent, et pourtant ces deux amis mènent le même combat, résister en 2008. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est président de la République. Plus question de contester sa légitimité. Mais les valeurs défendues l'année dernière demeurent. Il s'agit entre autres de sauvegarder les avancées sociales nées au lendemain de la guerre et menacées aujourd'hui.
On attaque les retraites par répartition, alors que c'était vraiment la mesure la plus équitable pour moi. Hein? On attaque actuellement les allocations familiales. C'est pas normal.
On vit dans un monde qui prône la concurrence de tous contre tous, avec un individualisme exacerbé. Et ben moi, je continue de penser que la résistance à ça, c'est de dire, ben non, nous, on a envie de vivre tous ensemble, d'être un peu plus solidaires entre les générations, entre les gens et entre les pays, quoi.
Le rassemblement de dimanche sonne comme un rappel à l'ordre. Résister est un verbe qui se conjugue au présent.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Il l'avait promis dans les derniers jours de sa campagne présidentielle, Nicolas Sarkozy, élu en avril 2007, était de retour sur le plateau des Glières, au lieu de la résistance, au début du mois de mai. Certains n'ont pas oublié, ni digéré, les images retransmises alors par la télévision. Un président hilar, s'extasiant sur la beauté du lieu, blaguant avec les dames et totalement indifférent au récit qu'un ancien tentait de lui faire des terribles combats qui eurent lieu à cet endroit. Quelques jours plus tard, à l'appel de résistants de Haute-Savoie, un pique-nique de protestation s'y déroula. Walter Bassan y prit la parole. Bien connu en Haute-Savoie, ce fils de résistant italien antifasciste fut déporté à Dachau avec son groupe de résistants. Il n'avait pas 20 ans. Gilles Perret, qui le connaît depuis toujours, a eu envie de lui consacrer un film retraçant ses engagements passés et présents, car Walter, comme la plupart des anciens résistants, donne beaucoup de son temps à la transmission de cette mémoire et à l'éducation des jeunes à la nécessité de rester vigilant. Walter, retour en résistance, est sorti en salle mercredi dernier. Il faut aller le voir pour combattre l'esprit de résignation qui nous guette. Raymond Aubrac nous fait le plaisir et l'honneur d'être ce soir en compagnie de Gilles Perret, l'invité de l'humeur vagabonde. Et le merveilleux Stéphane Hessel sera également avec nous, grâce à Aurélie Charron qui s'est entretenue avec lui.
se debe tu suerte y tú me necesitas mucho más. Por eso no habrá nunca despedida, ni paz alguna habrá de consolarnos. Y el paso del dolor ha de encontrarnos de rodillas frente a vida, frente a frente y nada más.
Bonsoir Gilles Perret.
Bonsoir.
Bonsoir Raymond Aubrac.
Bonsoir.
Raymond Aubrac, vous êtes ici ce soir pour soutenir et encourager les gens à aller voir ce film. Pourquoi ?
Parce que j'ai vu ce film et que je l'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il est surtout marqué par l'authenticité. Ça n'est pas une construction. C'est un petit peu un documentaire, mais c'est surtout un film de témoignage que je trouve très important pour rappeler un peu ce qu'était la résistance, pour rappeler un peu ce qu'a été la répression contre la résistance, et puis surtout pour rappeler quelque chose qui me paraît très très important, c'était ce qu'était le programme du Conseil national de la résistance. Et je regrette que ce document, qui est important pour l'histoire de notre pays, ne soit pas un peu mieux connu. Il mérite d'être connu, il a besoin d'être connu, en particulier à notre époque.
D'ailleurs, effectivement, Raymond Aubrac, vous faisiez partie en mars 2004 pour le 60e anniversaire de la publication de ce programme du CNR, du Conseil national de la résistance, des résistants, des très anciens résistants qui ont signé un appel pour que ce programme, peut-être pour être lu plus que d'autres textes qu'on fait lire en ce moment dans les écoles, parce que c'était un programme finalement qui a redonné vie à la France et sur lequel on vit ensemble. Vous, Gilles Perret, c'est autour de ces valeurs que vous avez bâti votre film, que vous avez bâti ce film autour de la personnalité de Walter Basson, qui est un ami, vous le connaissez, vous êtes un de ses voisins en Haute-Savoie. Et au fond, Walter, comme Raymond Aubrac, comme Stéphane Hessel, que l'on entendra tout à l'heure et qui est dans votre film, incarne ces valeurs qui, semble-t-il, c'est ce qui motive votre démarche, ont tendance à s'estomper, voire même à disparaître dans ce pays.
Oui, c'est vrai que moi, quand j'avais découvert l'appel des anciens résistants dont Raymond Aubrac avait signé cet appel en 2004, pour moi, ça a été une révélation, quoi. Et je m'étonne toujours du fait que cet appel ait été très peu relayé dans la presse à ce moment-là. Maintenant, je comprends beaucoup mieux. C'est-à-dire que ces gens-là, ce sont des héros, des résistants, mais ils étaient dans le passé. Mais quand ils se positionnent sur la question politique actuelle, effectivement, c'est devenu complètement inaudible. Bon, on sait pourquoi. Et moi, c'est vrai que ces valeurs-là, tout ce programme du Conseil national de la résistance était construit autour des valeurs de solidarité, d'égalité. Et moi, je le résumerais en une notion de vivre ensemble, comment on va vivre ensemble. Et c'était pas que des vagues théoriques, tout ça. Ça a été mis en œuvre par un programme politique qui a été mis en œuvre. Et on peut dire que depuis 60 ans, et ça s'est accéléré ces dernières années, les politiques publiques actuelles ne font que déconstruire pierre par pierre tout cet édifice qui avait été durement construit, quoi.
Alors, ce film... Raymond Aubrac, vous vouliez rajouter quelque chose, peut-être ?
Oui, je voudrais dire un mot sur le programme du Conseil national de la résistance. D'abord, qu'est-ce que c'est que le Conseil national de la résistance ? C'est un rassemblement qui a été construit par Jean Moulin en accord avec le général de Gaulle et qui a rassemblé en 1943 des représentants de toutes les familles politiques et spirituelles qui composait la résistance. Le Conseil national comporte des représentants de tous les mouvements, depuis l'extrême gauche jusqu'au modéré, qui se réunit dans la clandestinité. C'est grâce au Conseil national de la résistance que le général de Gaulle a gagné sa compétition avec le général Giraud. S'il n'y avait pas eu le CNR, c'est probablement le général Giraud qui aurait administré la France à la libération. Or, ce programme du CNR, il cristallise ce qu'étaient les résistants. Les résistants, on les décrit, ils étaient très peu nombreux au début, pas très nombreux à la fin, mais c'était tous des volontaires, c'était tous des gens capables de transgresser les ordres en prenant des risques personnels. Ils avaient une énorme solidarité entre eux et ils avaient une qualité dont on ne parle pas souvent, mais qui partageaient tous, y compris ceux qui étaient partis en Angleterre avec de Gaulle. C'était des optimistes, c'était des garçons et des filles, des hommes et des femmes qui étaient prêts à prendre des risques, et les risques étaient grands, à prendre des risques parce qu'ils voulaient que le pays devienne différent et qu'il soit sur la voie des progrès. Et le programme du Conseil national de la résistance, c'est un condensé de progrès économique, de progrès social, de progrès culturel. Et il représente vraiment ce qu'était la volonté unanime de tous les groupes de la résistance, car le programme a été rédigé et accepté à l'unanimité de tous ces groupes. C'est d'ailleurs ce programme, en réalité, qui était le vrai programme de gouvernement du général de Gaulle quand il est venu au pouvoir à la Libération. Et c'est d'ailleurs, il faut le dire, le général de Gaulle qui a mis en œuvre une bonne partie du programme dans l'année 1945. Donc c'est un document très important et unique dans l'histoire de notre pays.
Et d'ailleurs, il faut dire qu'il s'appelait « Les jours heureux », ce qui, effectivement, en 1943, était quand même une belle déclaration d'optimisme. Et l'optimisme, en fait, on le retrouve dans votre film, Gilles Perret, avec ce personnage formidable de Walter Basson. On va lui donner tout de suite la parole. Il apparaît dès les premières images. C'est un type formidable, il faut bien le dire.
Je suis fils d'émigré, émigré moi-même, puisque je suis né en Italie. Mes parents étaient antifascistes. Et ils ont combattu les chemises noires. Chaque fois que quelqu'un était repéré comme antifasciste et militant, hein, les employeurs ne pouvaient plus l'employer. Ça veut dire qu'un antifasciste ne trouvait plus de boulot. Et partant de là, mon père, pour faire vivre sa famille, il a dû émigrer. Quand Pétain a eu le pouvoir, on n'a pas eu, comme d'autres camarades français, on n'a pas eu à attendre des mois, pour ne pas dire des années, pour dire, bon, quel côté je vais pencher. Parce que pour ma famille, Pétain, c'est un fasciste. Ce qui fait que, bon, toute ma famille, finalement, mon père participe à la résistance et pour cause, puisqu'il il donnait à manger aux réfractaires qui se cachaient. Mon frère aîné était dans la compagnie FTP Liberté Chérie. Hein. Mon autre frère et moi, on est rentré dans un mouvement de jeunesse communiste qui régnait sur la région d'Annecy. Et notre objectif, c'était quand même de monter au maquis.
Français, quiconque parmi vous, fonctionnaire, militaire ou simple citoyen, participe au groupe de résistance, compromet l'avenir du pays. Il est dans votre intérêt de garder une attitude correcte et loyale envers les troupes d'occupation. Ne commettez pas d'actes susceptibles d'attirer sur vous et sur la population de terribles représailles. Vous précipiteriez la patrie dans les pires malheurs.
Gilles Perret, dans votre film, Walter Basson raconte ces choses si naturelles pour lui, puisqu'il était dans une famille d'immigrés, il faut bien le rappeler, ces immigrés antifascistes, qu'ils aient été italiens, espagnols, allemands, qui étaient venus se réfugier en France, pays des droits de l'homme, pour essayer de lutter contre le fascisme et contre la guerre qui se profilait à l'horizon et que les Français ne regardaient pas vraiment en face. C'était un groupe de jeunes garçons, ils étaient 25, ils se sont fait arrêter sur dénonciation. 10 d'entre eux n'avaient même pas 18 ans et 15 ne reviendront pas de déportation. Mais pour Walter, c'était une chose évidente. Ça reste une chose évidente parce que C'est ça le thème lancinant du film. C'est, en fait, la résistance a changé de nature. Elle n'est plus contre l'occupant, elle n'est plus contre le fascisme. Elle est contre une sorte d'esprit de renoncement qui était déjà celui des Français dans les années 30. Aujourd'hui, on renonce. On renonce en disant, mais ce n'est plus possible. La solidarité n'est plus possible. La sécurité sociale n'est plus finançable. Toutes ces choses pour lesquelles ces gens s'étaient battus et qui font le tissu d'une société, lui dit, si on renonce à cet esprit-là, on donne, finalement, on aura vraiment perdu la guerre.
Oui, oui, complètement. Je crois que c'est contre le fatalisme ambiant que ces gens-là, encore aujourd'hui, se lèvent et le disent fortement. Quand Raymond Aubrac dit l'optimisme, moi j'ai rencontré effectivement dans le film tous les personnages, que ce soit John Berger, Stéphane Hessel, enfin, etc. Ils ont tous plus de 80 ans, mais ils ont 25 ans dans leur tête, ils ont des projets, plein de projets pour l'avenir et toujours très très optimistes quant à la capacité de l'être humain à se regrouper et à proposer des perspectives d'avenir. Parce que effectivement, aujourd'hui, quelles perspectives d'avenir on propose dans les programmes politiques ? À peu près aucune. Quelle est la finalité de l'économie libérale, si ce n'est que d'arriver à un système où il n'y aurait plus qu'une seule personne qui sera accaparée toutes les richesses et qu'on aura continué de créer la disparité. C'est quand même pas terrible comme projet de société, quoi. Et eux, non, ils renoncent à ce fatalisme et toujours optimistes. Et ça a été pour moi, ça m'a à la fois botté les fesses et ça a été une sacrée révélation aussi. Parce qu'on se dit, mais alors nous, et pourquoi on ne fait rien ? Il y a urgence pour se regrouper, pour discuter, pour avoir envie de créer quelque chose ensemble, puis arrêter d'accepter ce qu'on nous vend comme indépassable, comme modèle, comme quoi c'est, on n'a pas le choix, on ne peut pas faire autrement. C'est affligeant, quoi, d'en arriver là.
Raymond Aubrac, vous ressentez-vous durement cette sorte d'esprit de défaite qui semble avoir envahi la France à nouveau ?
Vous savez, comme beaucoup de survivants de la résistance, je passe l'essentiel de mon activité invité par des profs d'histoire à rencontrer des jeunes des collèges, des jeunes des lycées. J'en vois deux ou trois fois par semaine. Il y a une chose qui me frappe, c'est que ces jeunes n'ont pas de projet d'avenir. Ils n'ont rien qui les mobilise, ils n'ont rien qui les dépasse. On en est venu à être obligé de leur donner de l'argent pour qu'ils viennent à l'école. Quand on interroge ces jeunes ados sur leur projet, sur leur avenir, beaucoup d'entre eux vous laissent comprendre qu'ils ne se sentent aucun avenir. Ils seront chômeurs, il n'y aura rien à faire, il n'y a pas moyen de gagner de l'argent. Pourquoi aller à l'école ? Ça n'a pas de but. Le fait de donner de l'argent à des jeunes pour qu'ils aillent à l'école, ça signifie qu'ils n'ont pas envie d'aller à l'école. Et ça, c'est très grave. Ça veut dire, comme le disait tout de suite Gilles Perret, que notre société n'a pas vraiment de projet d'avenir. Personne ne nous dit ce que sera la France dans 25 ans. On sait qu'il y a une mondialisation incontournable, qui a beaucoup d'effets bénéfiques à travers le monde, mais on ne sait pas quel rôle jouera notre pays dans cette mondialisation, quel rôle joueront les jeunes, et par conséquent, on ne se prépare à rien du tout. On se prépare simplement à consommer, consommer, consommer. C'est le seul avenir en perspective dans toutes les publicités qui assaillent la jeunesse.
Alors dans ce film, Gilles Perret, il y a beaucoup de moments très forts et il y en a un, évidemment, parce que votre héros est là, il regarde beaucoup la télévision, il s'informe effectivement et on le voit réagir à beaucoup de choses et notamment à des choses qui souvent glissent comme ça dans la société sans que, bon, ça fait 2-3 lignes dans les journaux. Or, il a tenu à lire devant votre caméra un texte de Denis Kessler qui a été un très haut personnage du MEDEF et qui reste très important dans ces eaux-là, et qui, en 2007, c'est-à-dire juste après la victoire de Nicolas Sarkozy, qui ouvrait des perspectives pour ceux qui souhaitaient ce type de changement, a donné une interview au magazine Challenge, dans lequel il attaque, bille en tête, ce programme de la résistance. C'est quand même fou, comme si c'était justement ces idéaux-là qui empêchaient le libéralisme de s'ébattre comme il le souhaite dans ce pays. On va écouter Walter Bassan lire ce morceau d'interview qui l'a tant frappé.
Les annonces successives des différentes réformes par le gouvernement peuvent donner une impression de patchwork, tant elles paraissent variées, d'importance inégale et de portée diverse. statut de la fonction publique, régimes spéciaux de retraite, refonte de la sécurité sociale, paritarisme. Et à regarder de plus près, on constate qu'il y a une profonde unité à ce programme ambitieux. La liste des réformes, c'est simple, prenez tout ce qui a été mis en place entre 1944 et 1952, sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance. Là, c'est clair, c'est net. Hein, tu sais qu'il est vraiment... Et je pense que toi, lui, il est... Et bon, il a au moins ce mérite, c'est de dire, bon, ben voilà ce qu'il faut... Pour dire, voilà ce que le patronat doit faire, quoi. Il faut effacer 1945, quoi. Parce que c'est vrai qu'en 1945, ils en ont avalé des... Enfin, pour eux, ce qui peut être pour eux des couleuvres. Mais c'est vrai que la majorité d'entre eux, du patronat, avaient collaboré. Donc en 1945, ils n'avaient pas la parole. Sans compter ceux qui s'étaient sauvés, ils se tairaient. Hein. C'est-à-dire qu'on a pu passer des lois sociales, ils n'avaient pas la force pour s'y opposer. Bon, ben maintenant, cette force, ils l'ont. Ils l'ont à tous les échelons, d'ailleurs, y compris à l'échelon du président de la République. Hein. Tu vois, qu'on s'attaque à la sécu, qu'on s'attaque à la retraite, qu'on s'attaque à toutes ces choses-là, pourquoi pas s'attaquer au vote des femmes pendant qu'ils y sont, hein.
Pas encore fait.
Ah ben non, j'espère.
On entend la compagne de Gilbert Bassan, qui, Walter Bassan, qui proteste effectivement. Mais voilà, Raymond Aubrac tout à l'heure rappelait que dans ce CNR, dans ce Conseil national de la Résistance, il y avait tous les représentants des forces politiques françaises, de l'extrême droite à la gauche modérée. On peut dire qu'aujourd'hui, toute une partie des forces politiques qui avaient construit cette France de la libération ont déserté ce champ-là. Parce que ce qu'on entend du côté des partis de la droite qui est au pouvoir, c'est effectivement il faut abattre ça, ce n'est plus de notre temps.
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que c'était... Il y a beaucoup de gens qui le disaient dans les partis, on va dire, d'opposition, qui disaient, mais on est en train de déconstruire le programme du CNR. Mais on le disait, mais c'était pas dit, c'était pas écrit, franchement. Et en fait, cette tribune qui avait été publiée dans Challenge, en fait, a été un révélateur magnifique, et en montrant bien que ce n'était pas, de la politique qui était menée comme ça à la petite semaine, mais qu'il y avait bien une idéologie derrière, une volonté clairement affichée de déconstruire méthodiquement le programme du Conseil national de la Résistance. Donc ça a été une grande révélation. Et si cette tribune apparaît en 2007, c'est pas un hasard non plus. C'est qu'on c'est devenu possible en France. Parce que le climat politique a changé, parce que le président de la République a changé, de pouvoir dire des choses pareilles. C'était impossible de dire des choses pareilles, ne serait-ce que 4-5 ans auparavant.
Raymond Aubrac, vous qui avez vu depuis longtemps les partis, et la droite et la gauche, gagner, perdre en France, vous avez le sentiment qu'on traverse aujourd'hui une époque que vous n'aviez pas connue avant, que 2007 a vraiment été un changement d'époque pour ce pays ?
C'est difficile à dire. Les transitions ont été lentes. Finalement, c'est pas en 2007 qu'on a inventé un certain nombre de règles de l'Europe. Quand l'Europe est basée fondamentalement sur la concurrence de tous contre tous, c'est antérieur à 2007. D'ailleurs, cette Europe, elle aurait des occasions de faire des projets, de tresser un avenir. On vient de célébrer la réunification de l'Allemagne. On vient de commémorer l'armistice de 1918. On est dans une situation où, heureusement, les Français et les Allemands ont établi des relations normales entre peuples. Pourquoi est-ce qu'on n'élabore pas des projets européens, des projets capables de mobiliser toutes les forces vives, y compris, et d'abord, les jeunes? Leur offrir un avenir positif au lieu de parler de privatiser des services publics, comme si on voulait remplacer l'esprit de service par l'esprit de profit. Ça n'est pas entièrement nouveau depuis 2007. Ça existait avant. J'ai peur que ça ne risque de s'accélérer. Mais j'espère qu'il y aura quand même quelques réactions qui permettront d'aller trop loin.
Alors, Gilles Perret, dans votre film, il y a un moment très émouvant qui est justement le jour de ce pique-nique au plateau des Glières, peu après le passage de Nicolas Sarkozy. Et on voit face à face Walter Bassan et Stéphane Hessel. Stéphane Hessel, une grande figure de notre pays. La dernière fois que je l'ai vu, il me rappelait qu'il était la petite fille de Jules et Jim, c'est-à-dire c'est lui qui était le personnage dans ce livre merveilleux. Il a été surtout un immense résistant, il a été déporté à Buchenwald, puis à Dora, et ensuite il est devenu ambassadeur de France, et il continue aujourd'hui à se battre pour les causes de la résistance d'aujourd'hui, pour les sans-papiers, pour les sans-domicile, pour les étrangers que l'on expulse. Il se bat pour les droits de l'homme et pour l'image de la France. Il a répondu pour être présent avec nous ce soir, parce qu'il aurait aimé être là et il était appelé ailleurs. Il a répondu aux questions d'Aurélie Charron.
Voyez-vous, une vie est un parcours. Mon parcours, comme celui des hommes et des femmes de ma génération, est un parcours qui a connu pas mal de ruptures et pas mal de soubresauts. Nous avons commencé tout jeune par connaître le Front populaire. Moi, j'avais 17 ans quand Léon Blum est venu au pouvoir. J'avais donc le sentiment qu'il y avait là des valeurs qui m'étaient chères et dont je souhaitais la défense. Pendant la guerre, j'ai retrouvé ces valeurs dans le sens des valeurs du Conseil national de la Résistance, qui étaient des valeurs social-démocratie auxquelles je continue à être sensible aujourd'hui. Est venu quelque chose qui, pour ma génération, est essentiel, c'est la construction de l'Europe. Nous avons dépassé le pur nationalisme. Quelle satisfaction pour les gens de ma génération qui ont connu encore une Europe totalement déchirée de l'entre-deux-guerres. Pouvoir résister à ce qui dégrade la société ou à ce qui porte atteinte aux valeurs auxquelles nous sommes attachés, eh bien cette résistance, elle est aussi importante aujourd'hui face aux problèmes de la France de 2009, qu'elle l'était au problème de la France de 1939-45. Aujourd'hui, il faut que nous soyons d'abord lucides, c'est-à-dire que nous comprenions les dangers qui nous guettent. Nous, les résistants, nous avions pris comme valeur les valeurs du Conseil national de la Résistance, qui avait indiqué qu'après la guerre, il fallait une vraie démocratie, avec des droits fondamentaux, sociaux, économiques. Il fallait la sécurité sociale, une presse indépendante, une scolarisation pour tous. Et nous sentons aujourd'hui que ces valeurs-là sont en danger, que le nouveau gouvernement, celui dont Nicolas Sarkozy est le président tout-puissant, ces valeurs-là, ils ne les respectent pas comme ils devraient les respecter. Il y a donc déjà une résistance évidente qui est de protéger ces valeurs. Exemple, nous sommes dans un gouvernement qui se comporte de façon inacceptable vis-à-vis des immigrés, vis-à-vis des prisonniers, vis-à-vis de certains malades pour lesquels il n'y a pas un système de santé suffisamment solide. Voilà des domaines où il est tout à fait naturel que aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui et les moins jeunes d'aujourd'hui résistent. Il faut que l'État assume les responsabilités pour les services publics dans leur ensemble. Et c'est une des nécessités qui a été soulignée par le Conseil national de la Résistance et à laquelle nous croyons, William Bassan comme moi, et nous sommes tristes que de proche en proche, même les politiques quelquefois de gauche, ont laissé aller la privatisation dans des domaines où il aurait fallu rester fidèle au service public. Le plus grave pour moi, c'est la façon dont nous accueillons en France ceux qui veulent immigrer chez nous, qui essayent d'y trouver une voie pour leur vie, parce qu'ils viennent de pays où ou bien ils ne trouvent pas le moyen de vivre, ou bien ils sont poursuivis par une politique oppressive. Prenons l'exemple des trois Afghans que l'on en renvoie dans un pays en guerre. Voilà des choses qui exigent que nous résistions. La critique facile consiste à dire « voilà un ministère de l'identité nationale, ça cache bien quelque chose, on veut faire plaisir à l'extrême droite, il faut passer outre à cela ». Et se laisser poser la question « qu'est-ce que c'est que l'identité nationale aujourd'hui de la France ?» Eh bien c'est heureusement une identité très multiple, la France est faite d'apports qui viennent de beaucoup de parties du monde. Nous avons accueilli au cours des siècles des immigrés de beaucoup de régions du monde et après la décolonisation des immigrés de nos anciennes colonies. Tout cela constitue la véritable identité française d'aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a une relève pour la résistance dans une nouvelle génération ?
Nous n'avons pas actuellement la présence d'une force de gauche suffisamment connue, suffisamment claire dans sa façon de s'exprimer. C'est mon principal regret. Si nous avions un Mitterrand qui passe son temps à indiquer dans quelle voie il serait possible d'aller, il serait probablement plus normal pour les jeunes de s'orienter plutôt vers celui-là que vers celui-ci. Quand quelque chose nous indigne, il faut savoir résister. Et ça ne consiste pas seulement à gueuler dans les rues, c'est déjà quelque chose, ça consiste aussi à travailler ensemble, en réseau, en groupe, en organisation. Je vous en donne une pour exemple, ce réseau qui s'appelle RESF, Réseau Éducation Sans Frontières. Il y a une indignation à l'égard de la manière dont le ministre de l'Immigration, de l'Identité Nationale et de je ne sais quoi encore, traite des gens qui ont toute leur place chez nous en France et dont il estime qu'ils doivent être renvoyés chez eux. Donc la résistance, c'est la parole, c'est nécessaire, ça compte, mais c'est aussi l'action.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Les Allemands étaient chez moi, ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a caché, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise.
Graves, the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
L'humeur est vagabonde,
L'humeur est vagabonde sur France Inter.
Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, même si de toute façon, en camp de concentration, on ne peut pas l'oublier, mais juste un fait?
Un seul fait, c'est pratiquement impossible. Hein. J'en ai. Bon, si tu veux, quand même quelque chose que je peux dire, c'est que quand à 14h du matin, les SS faisaient irruption dans le dortoir avec les chiens et les capots, tu avais quelques secondes pratiquement pour sauter de ton chalis. La première pensée qui nous venait à l'esprit, mais à tous sans exception, c'est est-ce que ce soir je serai vivant ? Voilà. Parce qu'on savait que de toute façon, la mort était là, et nous guettait tous les jours. Quoi. De toute façon, tous les jours, c'était des coups. Hein. À la porte où on devait passer par la force des choses, tu avais de chaque côté un SS et un capot. Ils avaient chacun une matraque dans la main. Aucun de nous pouvait échapper à un coup. Si tu avais de la chance, tu prenais les coups dans le dos, sur l'épaule, sur les bras. Bon, ça faisait mal, mais on en prenait tous les jours comme ça. Hein. Mais si tu n'as pas de chance et qu'un coup plus fort que d'autres, tu le reçois sur la tête, ça te fait une plaie. Et à partir de là, cette plaie, il n'y a rien pour la soigner. Donc elle s'ennime, c'est fini. Tu es sûr que dans les 15 jours, tu meurs. Quoi. Alors malgré ta volonté de te battre, ben c'est fini. Hein.
Gilles Perret, là, c'est un moment où Walter Basson est dans une petite école avec des enfants d'ailleurs assez jeunes qui posent des questions sur ce qui s'est passé. Ces enfants sont très attentifs et en plus, vous continuez le film, vous les accompagnez en voyage d'études avec leur professeur à Dachau en compagnie de Walter Basson. Et au fond, ces enfants posent des questions très naturelles. Ils sont plus à l'aise, semble-t-il, que les adolescents un peu plus tard. J'ai l'impression que les adolescents commencent déjà à se poser pas mal de questions sur l'engagement politique. J'ai senti dans votre film que vous étiez vous-même assez déconcerté par l'attitude de ce qu'on pourrait appeler la relève, parce qu'au fond, ces adolescents qui parlent politique dans le car au retour, ils ont l'âge qu'avait Walter Basson quand celui-ci s'est engagé tout naturellement dans la résistance. Vous avez eu le sentiment, en suivant comme ça ces discussions dans les écoles, qu'il y avait un manque d'espoir peut-être chez les adolescents?
Oui, enfin, on ne va peut-être pas faire une émission trop pessimiste, mais il ne s'agit pas de les incriminer. Je pense qu'ils sont uniquement le reflet de la société française aujourd'hui, qui globalement est quand même assez inculte politiquement. En tout cas, la chose politique n'intéresse plus beaucoup. Et donc, en fait, si on veut parler de cette séquence-là, effectivement, on voit que ce sont des adolescents très intéressants qui ont réfléchi aux questions de résistance, de déportation, enfin bon, et puis qu'ont aussi une discussion sur la politique, hein, sur la façon dont le pays est géré, etc. Et effectivement, ils sont perdus dans le paysage politique actuel, c'est-à-dire qu'il y a certaines valeurs qui pouvaient être attachées à un camp politique, à gauche par exemple, qui visiblement ne le sont plus pour eux. Et je trouve que c'est très, très révélateur des lacunes des différents gouvernements de gauche qui ont laissé filer ces valeurs-là d'une façon dramatique et qui maintenant sont faciles à récupérer par des personnes et un président de la République qui est brillant pour récupérer des symboles en le désincarnant des valeurs qui pouvaient y être attachées. Donc finalement, ils sont un petit peu perdus dans ce paysage politique. Mais je pense que si on avait posé la question aux adultes, ça aurait été plus ou moins le même résultat. Et il y a une sorte d'amnésie, de désintérêt pour la chose publique. Et tout à l'heure, quand vous passiez l'extrait où Walter disait « Moi, j'ai pas attendu, dans notre famille, on n'a pas attendu 44 pour savoir s'il fallait pencher du côté de Pétain ou du côté de De Gaulle », je pense quand même que plus on est cultivé politiquement dans la famille, dans son entourage, plus on s'intéresse à l'autre, à la chose publique, moins on est des proies faciles pour des techniques démagogiques et populistes, quoi.
Petit exemple justement de cette discussion avec les adolescents dans le car au retour du camp.
Dans la politique, celui qui veut se faire élire, il doit penser à tout. Et on ne peut pas penser à tout, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc de toute manière, il faut faire des choix. C'est pour ça que ça désintéresse un peu des gens et qu'on ne peut pas tout faire. Donc il y a forcément des failles dans un système politique, c'est obligatoire. Tout le monde ne peut pas être avec nous. On ne peut pas avoir une idée qui convient aux ouvriers, qui convient aux entrepreneurs en même temps, c'est impossible.
Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas forcément le temps de s'y intéresser vraiment. Ils ont beaucoup de travail, ils ont une famille à élever, ils ont des choses à faire. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas s'intéresser vraiment à la politique, vraiment à leurs convictions. Ce qui fait que pour déterminer pour qui ils vont voter, ils vont faire quoi? Ils vont regarder la télé et puis ils vont faire par rapport à leur catégorie sociale.
Même si tu as du temps, tu lis des journaux, tu regardes la télé, tu regardes des émissions sur la politique. D'accord. Je veux dire, justement, la grande question du voyage, ça a été est-ce que vous pensez que ça pourrait recommencer? Mais implicitement et même secrètement, ça recommence. Je veux dire, même la presse, elle est quasiment propagandiste. Je suis désolée. Il y a des gens qui se sont battus, justement, à l'époque de la Seconde Guerre, pour la liberté de la presse, pour dénoncer des causes comme le fascisme. Et aujourd'hui, on parle de quoi? Des vacances à Sarkozy sur un yacht? Je suis désolée. Oui. Pour moi, ça, c'est...
Tu t'informes comment? Si t'as pas la presse, si t'as pas la télé, comment tu fais pour t'informer? Parce que, de toute manière, aujourd'hui, tout est piège. On dit, la télé, c'est piège, il faut faire attention, les journaux,
l'internet. Regarder la télé, oui, c'est très bien. Lire les journaux, c'est très bien. Le problème, c'est qu'après, il faut savoir... Oui, voilà, il faut avoir le jugement.
Comment la propagande de...
Il faut avoir le recul nécessaire, et c'est ça que l'école est censée nous enseigner, c'est avoir le recul nécessaire face à l'information.
Raymond Aubrac, vous nous disiez il y a un moment que vous alliez très régulièrement dans les lycées, dans les collèges, pour parler à la demande des professeurs d'histoire de cette période et pour essayer d'inculquer un certain nombre de valeurs morales presque aux enfants. On sait bien que Lucie Aubrac, votre épouse, l'a fait jusqu'à la fin. Jean-Pierre Vernant l'a fait jusqu'à la fin. Stéphane Hessel continue à courir le monde pour dire ça. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est utile ou que ce sont des paroles aujourd'hui qui tombent dans cette espèce de magma idéologique qui est le nôtre?
On ne sait pas très bien dans quelle mesure c'est utile. Moi, je crois qu'un discours comme celui des paroles comme celles qu'on vient d'entendre de Stéphane Hessel, c'est très important. Parce qu'en même temps, ça met en perspective le passé et l'avenir. J'ai été très frappé par le rôle des enfants dans le film Walter. Pendant la visite du camp, ils comprennent beaucoup de choses. Dans leur discussion dans le car, ce qui m'a frappé aussi, c'est un peu ce que je constate dans les visites scolaires, c'est-à-dire que les jeunes n'ont pas de projet. Ils ont une vue sur des individus, les uns ou les autres, mais ils n'ont pas vraiment de projet. On ne leur fait pas de proposition d'avenir réel. Ils sont le reflet de la société. Notre société, elle est comme ça. Mais c'est particulièrement grave quand il s'agit des jeunes, au point qu'il faut leur proposer de l'argent pour qu'ils assistent à l'école, parce qu'ils n'y croient plus. Ça n'est pas la faute des enseignants. Beaucoup d'enseignants ont parfaitement conscience de cette situation, mais ça dépasse de loin le cadre des enseignants. Et je crois que Stéphane a entièrement raison quand il met en cause la responsabilité directe des gouvernants.
Il y a aussi dans votre film, Gilles Perret, un autre magnifique personnage qu'on connaît. Il a été reçu ici, il s'appelle John Berger. C'est un grand écrivain. Il a reçu le prix Pulitzer aux États-Unis. Lui est anglais. Il vit maintenant, et depuis très longtemps d'ailleurs, en Haute-Savoie, dans un hameau tout à fait perdu où il est souvent isolé en hiver. Et alors lui, il a quel âge maintenant? Il a passé 90 ans, lui.
Non, il a 80. Non. Il vient d'avoir 83 ans.
83
ils ont exactement
ans.
Le même âge que
avec
John
Walter.
Et Walter. Oui. Ouais. C'est mon voisin, on habite à 100 mètres l'un de l'autre.
Voilà, et alors lui, il a toujours 20 ans. C'est incroyable. Il est d'une énergie et d'une drôlerie en même temps. On l'écoute.
Peut-être la résistance est une chose perpétuelle. oui. Sans fin, dans un certain sens.
Absolument. Ça suffit, moi, ce point. C'est la formule qu'on a trouvée depuis quelque temps, de dire que ceux qui se battent pour une société meilleure sont des utopistes. Hein?
Cette lutte pour plus de justice, ça c'est pas utopique. Ça c'est peut-être c'est une des conditions humaines d'être pleinement en vie et humain. Qu'est-ce que c'est l'utopie dans tout ça? Au contraire, l'utopie, s'il y a une utopie diabolique, c'est l'utopie de le néolibéralisme qui prétend qu'en cherchant les profits, en détruisant la terre, en négligeant les gens, que quelque part, ça représente la liberté. I mean, tu sais combien de millions des gens, quelle proportion de gens dans le monde vit avec pas assez à manger? Mais c'est immense. I mean, on peut citer tous ces chiffres, mais tout le monde le connaît, en effet. Oui? Et ça, c'est pas la nature de la vie. C'est pas les hasards de la nature. Quelquefois, c'est ça. Mais en général, ça, c'est les conséquences directes des décisions prises par les cerveaux humains. Ce qu'ils fabriquent, c'est une tyrannie. Donc, je ne crois pas que le mot est exagéré de tout. Et je parle de le fascisme économique, c'est après beaucoup de réflexion que je choisis ce mot.
On sent qu'effectivement, c'est après beaucoup de réflexion que John Berger emploie ce terme de tyrannie économique. On voit les temps qu'on vit, on voit bien ce qu'il veut dire. Gilles Perret, il y a dans votre film, alors ça tourne autour du plateau des Gruyères, vous êtes là, vous êtes en Savoie, chez vous, et il y a eu cette réaction après la visite de Sarkozy. On revoit ces images qu'à l'époque déjà les journaux avaient commentées de manière assez acerbe, où on voit le président de la République qui n'écoute pas du tout ce qu'on lui raconte, cet hommage aux résistants, et qui blague avec les uns et les autres. Et donc, il y a eu une réaction de la population autour. Il y a eu ce pique-nique de résistance.
Oui, en fait, c'est un pique-nique qui est devenu récurrent maintenant. Hein. Il y a eu 3 éditions, donc il y a eu une réaction très épidermique tout de suite après sa première venue, et qui était un peu pour rappeler déjà qu'on ne faisait pas n'importe quoi avec l'histoire, et puis que sur ce lieu-là, on ne pouvait pas l'utiliser à des fins personnelles, puisqu'il était venu en tant que candidat. Et puis l'année d'après, le collectif qui avait organisé ce rassemblement a décidé de le refaire, mais de rappeler, de dire certes, le président de la République a le droit de venir au plateau des Glières puisqu'il est président de la République, mais à nous de lui rappeler que si vraiment il veut se référer à la résistance, qu'il applique le programme du Conseil national de la résistance. Et donc, on a rappelé un petit peu toutes ces valeurs-là sur ce plateau-là, ce jour-là. Et donc, c'était la première fois que Stéphane Hessel venait. Et c'était un grand moment d'émotion. Et là, il y avait quelque chose comme 1000 personnes. Et cette année, il y a eu 4000 personnes. Vous n'en avez pas beaucoup entendu parler dans la
presse.
Non,
c'est vrai.
C'est bizarre.
C'est vrai. Ouais. C'est très étrange.
C'est étrange, oui. Que 4000 personnes viennent en famille, sans étiquette politique.
C'est à quelle date
Ça sera le 16 mai prochain. Ça sera pendant le week-end de l'Ascension. Donc, on peut venir sur plusieurs jours. Et c'est vrai qu'il y avait une communion. Enfin, Raymond Aubrac est venu cette année avec Stéphane Hessel. Et puis, on a décidé aussi de faire un pont entre les résistances passées et les résistances actuelles. Donc, il y avait Alain Refallo, cet instit désobéisseur. Il y avait Michel Guyader, qui est un psychiatre qui avait écrit une lettre ouverte au président contre sa vision uniquement répressive de la psychiatrie. Et en fait, il y avait 4000 personnes qui écoutaient ça dans le silence, et on a vécu quelque chose d'extraordinaire, et les gens qui sont montés là-haut ne sont pas prêts d'oublier. Vraiment, j'en parle encore un peu avec d'émotion, parce que c'était vraiment quelque chose d'incroyable, et je ne sais pas comment vous, Raymond, vous l'avez vécu, mais vraiment, c'était fort, et cette année, je pense que ce sera encore plus fort.
Raymond Aubrac.
Eh bien, vous avez raison, Gilles Perret. Le spectacle des Glières que j'ai vu cette année était quelque chose de très, très impressionnant et très réconfortant. Et après tout, puisque à l'occasion de cette émission, nous avons été contraints de critiquer un peu le président de la République, on peut quand même mettre à son actif un geste très positif. C'est sa visite aux Glières. C'est grâce à lui que nous avons les pique-niques des Gruyères.
Voilà.
Et c'est grâce à lui que nous avons votre film.
Voilà, exactement. C'est vrai que le fait qu'il soit venu et qu'il se comporte de façon assez indigne dans ce cimetière, finalement, ça a donné une dimension nationale au film. Et ça a été l'occasion qu'on se rassemble tous ensemble, en famille, en pique-nique, et de façon très convivial, très fraternel, et c'était vraiment très émouvant et très sympa.
Et lors du premier pique-nique, bien sûr, Walter Basson a pris la parole. On l'écoute.
Nous, vétérans des mouvements de résistance et des forces combattantes de la France libre 1940-1945, appelons les jeunes générations à faire vivre et retransmettre l'héritage de la résistance et ses idéaux toujours actuels de démocratie économique, sociale, culturelle. Nous appelons ensuite les mouvements, partis, associations, institutions et syndicats héritiers de la résistance à définir ensemble un nouveau programme de résistance pour notre siècle, sachant que le fascisme se nourrit toujours du racisme, de l'intolérance et de la guerre, qui eux-mêmes se nourrissent des injustices sociales. Comment peut-il manquer aujourd'hui de l'argent pour maintenir et prolonger ces conquêtes sociales, alors que la production de richesses a considérablement augmenté depuis la Libération, période où l'Europe était ruinée? Nous appelons enfin les enfants, les jeunes, les parents, les anciens et les grands-parents, les éducateurs, les autorités publiques, à une véritable insurrection pacifique contre les moyens de communication de masse qui ne proposent comme horizon pour notre jeunesse que la consommation marchande, le mépris des plus faibles et de la culture, et la compétition à outrance de tous contre tous. Plus que jamais, à ceux et à celles qui feront le siècle qui commence, nous voulons dire avec notre affection, créer, c'est résister, résister, c'est créer.
Un joli cadeau, Gilles Perret, que les enfants de l'école de Mieuxcy en Haute-Savoie ont fait à Walter Basson pour le remercier d'être venu leur parler de tout cela. C'est une jolie image aussi de voir ces gamins et puis qui viennent d'horizons très différents parce qu'ils sont tous métissés et c'est bien joli à voir. En tout cas, votre film, Gilles Perret, il est sorti dans 12 salles à l'heure actuelle depuis une semaine. Mais il faut dire que, en fait, c'est un film qui est destiné à voyager, c'est-à-dire qu'à la demande des associations, des établissements scolaires ou autres, ou des simples particuliers qui ont une salle à offrir, peuvent le demander. Il peut voyager, il peut y avoir des débats après.
Oui, en fait, il va circuler de salle en salle. Les cinémas ne l'ont pas tous sorti en même temps. Ce n'est pas un film commercial qui risque de mourir la première semaine. On est bien conscient que c'est un film qui nécessite le bouche à oreille, qui prend du temps. Donc, il y a déjà pas mal de salles qui se sont positionnées dans pas mal de villes en France, qui vont le prendre en courant décembre, janvier. Et puis, effectivement, il y a pas mal d'associations, partis politiques, syndicats, etc., qui peuvent le prendre, faire des projections, des choses comme ça, en sollicitant leur cinéma de leur ville. Et puis, tout ça, ça fonctionne un petit peu par le bouche à oreille et par la volonté des uns des autres. Et on sait très bien que pendant les mois qui suivent, il va falloir l'accompagner beaucoup parce que ça suscite beaucoup de débats, beaucoup de réflexions. Et on a reçu déjà beaucoup de témoignages très, 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 très forts et très, très émouvants. Et j'ai l'impression que chacun ressort en regardant ce film en étant un petit peu, comme ils disent, requinqué. Ça remet la pêche, quoi. Et si ce film a pu servir à ça, c'est déjà pas mal.
C'est vrai que, voilà, c'est vrai qu'on y entend des choses qui font réagir, en tout cas, parce que le débat, il peut avoir lieu dans tous les sens. C'est-à-dire, vous pouvez être contesté. D'ailleurs, vous l'avez déjà été. Vous pouvez être approuvé. Mais en tout cas, un film qui donne à réfléchir sur le passé, sur le présent et sur l'avenir, c'est pas si fréquent. Donc, je rappelle que Walter, Retour en résistance, ce film de Gilles Perret, est à voir en ce moment dans les salles et vous pouvez le réclamer partout où vous avez envie de le voir. Mmh. Merci infiniment,
merci
Gilles Perret.
Beaucoup.
Merci infiniment, Raymond Aubrac. C'était un merci. Plaisir de vous voir ici ce soir.
Merci.
Vous Voilà, l'humeur vagabonde de ce 11 novembre s'achève. Vous avez pu entendre Luz Casal, Encadenados et Leonard Cohen, bien sûr, Le Partisan. France Inter continue, bien entendu, après les informations de 21h. Et nous nous retrouverons demain soir avec de la musique, Handel et Sandrine Piau. Très bonne soirée.